Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Startup. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour parler startup, pour parler business model, fondation de startup. Aujourd'hui, je reçois Elliot Boucher. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Co-fondateur d'EduSign.
Tout à fait.
Alors, EduSign a vu le jour en mars 2020. Donc, c'est une jeune pousse. Justement, vous êtes trois cofondateurs, Dylan Texera, vous et donc Grégoire Chantegrel. Pouvez-vous nous expliquer donc que fait EduSign ?
Alors, vous voyez, quand vous avez une feuille de présence en formation, c'est un document que tout le monde doit signer. Donc, ça veut dire les étudiants, le formateur. Et en fait, ça prend du temps à tout le monde dans la classe. Mais le vrai problème, c'est que derrière cette feuille de présence, c'est un administrateur qui la gère. Donc, l'administrateur, il peut gérer 10, 20, 100, 500 feuilles par jour.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et donc, il doit les scanner, il doit les imprimer, les transférer, vérifier les informations. Bref, ça prend un temps, en fait, énorme. Et donc, EduSign, c'est une solution qui va venir digitaliser et automatiser tout le processus pour l'assiduité et également maintenant la signature électronique de documents et les questionnaires.
Donc, start-up spécialisée donc dans l'émargement digital et dans la gestion de documents administratives. Alors, comment ça s'est passé ? Vous êtes étudiant encore ou pas ?
Alors, officiellement, je ne suis pas encore diplômé, je ne suis plus étudiant.
D'accord. Donc, j'imagine que c'est pendant vos études, avec donc Dylan, vous étiez tous les deux ensemble à l'école. Quelle école ?
Alors, on était à l'IESSEG.
D'accord. Et comment ça s'est passé ? Vous étiez amis ou vous êtes rencontrés voilà.
On venait de se rencontrer depuis peu, parce qu'on est rentré dans le master Digital Marketing Innovation donc de l'IESSEG. Et assez vite, on est tombé sur ce problème des feuilles de présence. En fait, on en a perdu une ou deux. On nous a demandé de re-signer, donc ça nous a un petit peu agacé. Et vu qu'on était un petit peu débrouillard, Dylan qui code très bien, donc a pu développer une première solution. J'ai pu échanger avec différents interlocuteurs pour comprendre le problème et arriver à une solution. Et on a réalisé qu'en fait, le problème était bien plus large que juste notre école, que ça existait partout ailleurs dans la formation. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer une solution et que Grégoire nous a rejoint quelques mois plus tard.
D'accord. Mars 2020, on pense tout de suite au confinement. C'était lié, c'était avant, j'imagine.
Alors effectivement, on n'avait pas pu anticiper ça. Hein. Ouais. Donc la solution n'a pas été pensée à la base pour le distanciel. Et d'ailleurs, ça nous a posé problème. C'est-à-dire que lorsque le premier confinement est arrivé, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire. C'est-à-dire, on s'est même posé la question de est-ce qu'on allait fermer la société parce que peut-être ça n'allait plus avoir de sens. Et finalement, on a trouvé une solution en moins de deux jours pour faire émerger des personnes à distance et d'ailleurs de manière sécurisée, avec notamment un QR code qui change toutes les 5 secondes, par exemple, pour éviter la fraude. Et donc, s'ensuit énormément d'appels d'organismes de formation, d'écoles de commerce, etc. Et ensuite, on a pu donc développer le produit.
Donc aujourd'hui, qui sont vos clients ?
Aujourd'hui, on a majoritairement des organismes de formation, donc qui forment des professionnels en grande partie, et aussi des particuliers qui veulent se former sur différentes problématiques. Et on a évidemment des écoles de commerce, des universités, mais aussi des grandes entreprises, par exemple, du CAC 40, qui ont des formations en interne et qui ont besoin de suivre l'assiduité ou de signer des documents. Et également, de l'autre côté, des formateurs indépendants qui peuvent avoir aussi un besoin plus ponctuel.
Donc c'est assez varié.
C'est assez large. Notre spécificité, c'est qu'on a vraiment une expérience sur la formation. C'est-à-dire que des logiciels de signature électronique, il y en a d'autres. En revanche, sur la formation, on pense qu'aujourd'hui, on a la meilleure solution.
Et alors, comment vous faites connaître ?
Comment on s'est fait connaître ? Alors, la première chose pour se faire connaître, c'est comment on se différencie. C'est-à-dire comment on arrive à proposer une solution qui est unique sur le marché. Donc, ça passe par un bon produit, certes, donc ça, c'est un bon point, mais c'est aussi trouver les éléments différenciateurs et donc ça passe par la marque. Par exemple, EduSign est jaune, c'est volontaire. C'est une marque différenciée par rapport aux concurrents qui sont tous bleus, un peu ternes. Et donc, pour se faire connaître, on a joué à la fois sur une marque différenciante, à la fois sur un produit et un service qui était plus, je dirais, haut de gamme, en tout cas, qui a donné une meilleure expérience à nos utilisateurs. Et donc, aujourd'hui, c'est à peu près la moitié des utilisateurs qui viennent d'autres utilisateurs, c'est-à-dire de l'utilisation d'EduSign ou des recommandations, et l'autre moitié qui vient aujourd'hui de Google. Donc, très simplement, on s'est bien positionné sur Google et donc ça nous permet d'avoir aussi pas mal de visibilité.
L'e-réputation, c'est
L'e-réputation, le SEO, ça effectivement, c'est important. Ouais.
Et alors, quel est votre business model ? Comment vous gagnez de l'argent
EduSign, à la base, c'est une solution d'émargement digital. Donc le premier point qu'on aborde, c'est le nombre de signatures. Ça va être l'élément principal déterminant pour décider du pricing, de l'abonnement. Et donc derrière, c'est un abonnement par mois, par année, en fonction éventuellement aussi des apprenants, donc du nombre d'étudiants qu'il peut y avoir. Donc c'est un abonnement classique, comme on peut retrouver sur d'autres logiciels.
Aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs EduSign ?
Aujourd'hui, on est 18.
Et alors, à l'époque, vous étiez que 3 ? 2 d'abord ?
Tout à fait.
3 ?
Effectivement.
Et puis, comment ça s'est passé ? Alors, est-ce que ça s'est fait assez rapidement,
Ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire qu'on a recruté d'abord un commercial, puis deux développeurs. Et si on regarde en septembre, nous n'étions que 7. Et donc là, on a levé des fonds en novembre, justement
million,
pour accélérer, 1 million d'euros, afin d'arriver aujourd'hui à 18 et très prochainement jusqu'à même 25.
Là, c'est l'objectif 25 d'ici la fin de l'année ?
À peu près, ouais.
Alors, quel genre de profil vous allez recruter ?
On cherche activement des développeurs, des commerciaux, des gens au marketing, donc un petit peu de tout, à vrai dire, qui constituent une start-up aujourd'hui.
Le siège est à Paris ?
Le siège est à Paris, mais on a la particularité de tout de suite, et aussi parce que le confinement était là dès le début de la fondation d'EduSign, on a une société qui travaille complètement à distance. Donc ça veut dire que même si on a des locaux à Paris, à Station F, dans le plus grand incubateur du monde, la majorité des collaborateurs travaillent d'où ils veulent. Donc ça veut dire que j'ai par exemple mon associé aujourd'hui qui est en Martinique, je vais bientôt partir au Portugal, on a des employés qui sont à Marseille, à Nice, à Paris, voilà, ça varie, et c'est aussi une force aujourd'hui pour recruter d'ailleurs.
Bien sûr, oui, parce que c'est compliqué, on le voit hein, dans beaucoup d'émissions. Ici, je rencontre justement des fondateurs de start-up qui peinent parfois à recruter des talents. Le télétravail fait partie des arguments. Là, vous me parlez par exemple d'un associé en Martinique, de personnes à Marseille. Est-ce que vous les avez rencontrés physiquement ou ça s'est fait uniquement en virtuel ?
Alors effectivement, c'est assez amusant. Je travaille par exemple avec quelqu'un depuis plusieurs mois et je ne l'ai toujours pas rencontré.
D'accord.
Maintenant, on a bien conscience que le rapport humain est important et donc oui. Là, par exemple, on part début juin ensemble, toute l'équipe, on se retrouve dans le sud pour faire un team building de telle sorte qu'on puisse aussi passer un moment un peu plus ensemble, disons, et donc pour créer du lien.
Oui, c'est important d'avoir le côté humain quand même.
C'est important, effectivement. Maintenant, on essaie aussi de mettre en place des protocoles, des processus à distance pour que personne ne se sente délaissé et soit laissé dans son coin. Donc, il y a des outils qui peuvent permettre aussi d'améliorer ça à distance.
Évidemment,
par exemple, on utilise un logiciel de visioconférence qui est un peu différent des logiciels de visioconférence traditionnels. C'est-à-dire qu'en visioconférence, vous allez envoyer un lien, vous connectez. Mm-hmm. Là, on a un espace sur lequel chaque personne qui travaille va se connecter, peu importe s'il est en fait en réunion ou pas. Donc, ce qui permet d'avoir une interaction, de bouger comme un petit jeu vidéo.
D'accord.
Dans notre espace virtuel et ce qui en fait est un bureau virtuel véritablement.
D'accord. Ah oui, comme ça, ça crée du lien. Et alors justement, en parlant de recrutement, comment vous vous y prenez pour recruter ? Est-ce que c'est compliqué ? Quel genre de profil ? Comment vous choisissez les différents profils ? Est-ce que vous chassez ? Est-ce que c'est des candidatures que vous recevez ?
Alors il y a deux questions, donc qui on va choisir et comment on va recruter, comment trouver des profils. Donc déjà pour trouver des profils, on va avoir plusieurs canaux, on va peut-être demander à nos collaborateurs, parce que c'est des talents et ils ont des amis, des connaissances qui peuvent être très intéressantes pour la société. Et majoritairement aujourd'hui, c'est des personnes qui viennent vers nous, parce que justement il y a une certaine offre, donc notamment de travailler à distance qui est assez attirante. Et puis parfois on va effectivement chasser, donc on va aller chercher les talents. Et là à ce moment-là, ça va être parfois un petit peu de conviction qui va être nécessaire pour faire venir les personnes et qu'elles aient envie de venir.
C'est compliqué de recruter ou pas ?
C'est effectivement compliqué de recruter, notamment lorsqu'on ne l'a pas fait avant. Hein. Très ouais. Clairement, on n'est pas des experts du recrutement. Donc, on apprend aujourd'hui tous les jours sur comment bien recruter. Mais c'est quelque chose, aujourd'hui, on pense arriver à avoir une culture qui attire et on arrive à retrouver des talents.
D'accord. Et vous avez à peu près combien de candidatures quand vous mettez une offre ?
Ça va complètement dépendre. Par exemple, pour un poste de développeur senior, donc c'est des profils très techniques, très en demande, peut avoir maximum 20-30 candidatures. Et à l'inverse, si je vais mettre sur du marketing, je peux avoir 400 candidatures. Donc ça ouais. prend parfois d'ailleurs ah, un oui. temps fou de trier ces candidatures.
Et ça, c'est vous qui le faites avec...
C'est effectivement nous qui le faisons ou nos collaborateurs.
Ouais. D'accord. Les profils dans la tech, c'est très demandé en ce moment.
C'est forcément très demandé. Ouais. Maintenant, la réalité, c'est que il y a une pénurie de profils dans la tech. On en parle beaucoup des développeurs, mais il y a aussi une pénurie en réalité de talents sur quasiment tous les postes en fait dans les startups. C'est-à-dire que des bons commerciaux qui savent vendre des produits logiciels B2B, il y en a pas forcément tant que ça. De la même manière, en marketing, des personnes qui ont l'expérience du digital, en fait, c'est un monde nouveau, et donc des personnes qui ont véritablement quelques années d'expérience, c'est un petit peu difficile à trouver. Donc on arrive à trouver des profils juniors assez facilement, des sorties d'école
ouais, c'est ça,
ça va. Par contre, dès lors qu'on est sur 2, 3, 4 ans d'expérience, en fait, les gens se font des marchés. Donc si on ne fait pas cet effort d'avoir une offre très attirante ou d'aller chercher les gens, c'est effectivement compliqué.
Et est-ce que parfois il ne vaut pas mieux avoir un sorti d'école que l'on peut nous-mêmes formater plutôt que quelqu'un qui a déjà une expérience, qui est déjà, parce que c'est un peu propre à chaque start-up aussi ça, ce mécanisme?
Bien sûr, en fait ça va dépendre des postes, ça va dépendre du besoin à l'instant T. C'est-à-dire que si on a déjà des personnes qui sont assez seniors, qui ont de l'expérience, qui vont pouvoir former quelqu'un sur un sujet, effectivement là on va peut-être plus privilégier des profils juniors. À l'inverse, lorsque on n'a pas la compétence et que véritablement on veut la trouver, donc par exemple sur une compétence typiquement de recrutement ou de design sur lequel on n'a pas forcément d'expérience nous-mêmes de base, en tout cas de manière très poussée, alors là on va plutôt chercher des profils seniors.
Là on parlait du coup tout à l'heure, on va revenir sur vos études, du coup vous êtes presque diplômé, vous l'avez créé cette boîte EduSign en tant qu'étudiant. Est-ce que ça a été compliqué de gérer les deux, d'avoir les études d'un côté et de penser à son bébé de l'autre?
Alors, ça a forcément été compliqué à un moment et un peu usant sur la fin de faire les deux. Maintenant, nous, on a eu la chance d'être accompagnés quand même par notre école, pas mal. Donc, ce qui a fait qu'on a pu, d'ailleurs, le produit est finalement pensé pour une école. Donc, le contexte était assez favorable. Ça nous a permis de faire de la recherche utilisateur très facilement. Donc, je dirais que c'était une contrainte, mais qui au final nous a certainement bénéficié, et sans ça on n'aurait pas trouvé de toute façon la solution pour EduSign. Donc c'est compliqué de jongler, mais c'est possible, et je pense que surtout la question derrière, c'est est-ce que c'est réplicable pour toute autre personne. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est à quel point c'est important, parce que quand on le veut vraiment, la vérité c'est qu'il y a le temps, c'est-à-dire si on a le temps de regarder Netflix, on a le temps de passer une heure en plus sur son business, oui. Et après c'est juste une question d'équilibre, et petit à petit, évidemment, on va passer de plus en plus de temps sur le business.
Et alors, comment justement Grégoire vous a rejoint? Comment ça s'est fait?
Alors Grégoire connaissait mon autre associé Dylan, donc c'est un peu naturellement qu'il nous a rejoint. On a des trois profils assez complémentaires. Dylan qui va parfaitement exécuter au niveau du code et développer. Moi qui vais plutôt avoir le côté expérience client marketing. Et puis Grégoire qui allait avoir la casquette commerciale, et donc qui allait pouvoir convaincre les clients.
D'accord, oui, donc c'est très, très, très complémentaire. Aujourd'hui, les décisions, vous les prenez à trois à chaque fois ou...
On les prend majoritairement à trois, en tout cas pour tout ce qui est important. Maintenant, évidemment, plus la boîte grossit, moins on a le contrôle sur tout. On ne peut pas tout connaître. Hein, et on le voit d'ailleurs au début d'une société, on connaît tout, on voit tout. Et puis, petit à petit, il faut lâcher un petit peu
déléguer.
Prise et déléguer et donner la responsabilité à certains. Donc maintenant, on ne prend pas toutes les décisions, non.
Ça, c'est dur de déléguer ou pas, quand c'est son bébé, quand c'est sa start-up?
C'est une bonne question. C'est parfois difficile de déléguer à quelqu'un qui n'a pas forcément la compétence tout de suite et d'accepter qu'il va faire des erreurs pour ensuite arriver à prendre vraiment la responsabilité de ce sujet. Et parfois, ça peut être un peu frustrant. Maintenant, évidemment, c'est un processus qui est normal et logique.
Bien sûr.
Et donc, on l'accepte assez vite. Ouais.
Et comment faut faire alors pour, il faut essayer de prendre du recul. Qu'est-ce que vous vous êtes dit de...
Alors personnellement, lorsque j'essaie de déléguer une tâche, je vais d'abord essayer de la maîtriser et de créer un process qui est réplicable, que ce soit très clair où sont les responsabilités, où est le début et la fin de la mission, et sur quel sujet il peut y avoir des questions et sur quel autre il peut aller chercher par lui-même et où je ne vais pas forcément avoir la réponse. Et ensuite, une fois qu'on a un petit peu le contexte, là, on va le déléguer plus facilement, je trouve.
D'accord. Au final, EduSign, c'est pour maîtriser son impact écologique. C'est important pour vous, ça? C'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Alors, c'est une bonne question. Effectivement, ça nous tient à cœur. Et je pense que tous les matins, on est content de se lever en se disant qu'on contribue un tout petit peu à réduire le papier. Mine de rien, c'est 750 000 feuilles l'année dernière qu'on a économisées. Donc, on voit tout le papier, tout l'encre, le stockage, etc. Donc, ça, c'est chouette. Maintenant, ce n'est pas la raison d'être d'EduSign, très honnêtement. On mentirait si c'était le cas, parce qu'évidemment, il faut nuancer. Les serveurs, par exemple, ne sont pas tout verts. Ils consomment forcément de l'électricité. Maintenant, on essaie de faire en sorte, à la fois dans notre produit, mais aussi dans notre organisation, d'être responsable. Et donc, ça passe notamment par des politiques qui font qu'on ne va pas prendre l'avion, par exemple, et on va plutôt prendre le train lorsqu'on fait un team building.
D'accord. Oui, donc vous faites quand même attention.
On fait un effort, effectivement, sur pas mal de sujets. Oui.
Et c'est pourquoi? C'est par conviction ou c'est pour dire, chez EduSign?
Il y a les convictions personnelles, et moi, je ne vais pas forcément m'exprimer là-dessus, mais c'est aussi une réalité de dire qu'aujourd'hui, les jeunes, notamment, accordent une importance particulière. Aujourd'hui, on a des salariés qui nous disent... On aimerait vraiment aller en train plutôt qu'aller en avion, par exemple. On a D'accord. eu de vive voix la demande, même si de toute façon on l'aurait fait, mais c'est quelque chose qui est exprimé, qui est voulu, et il y a beaucoup plus d'initiatives aujourd'hui qui se font, et je pense que pour recruter, c'est aussi un argument si on arrive à être dans cette dynamique.
Ça, vous le sentez vraiment, que pour recruter, on c'est important d'être...
On le sent sur certains profils, c'est-à-dire que pas tous, mais sur certains profils, effectivement, c'est important.
Quel profil, par exemple ?
Alors, pas forcément un profil en particulier, plus par exemple les développeurs que les marketeurs, ouais. c'est pas forcément ça, mais c'est plutôt la sensibilité de chacun. Il y en a qui vont être plus ou moins sensibles à ça, comme il y en a qui vont être plus ou moins sensibles à l'argent, d'autres qui vont être plus ou moins sensibles au télétravail. Donc chacun est flexible, et justement notre travail en tant que fondateur pour attirer des talents, c'est aussi de trouver la bonne offre pour la bonne personne au bon moment.
Et il y a un chiffre quand même qui est marquant, 6 millions de signatures sur papier qui ont été économisées en 2021 grâce à EduSign. C'est beaucoup ?
C'est pas mal, mais on espère cette année faire 5 fois plus en réalité.
5 fois plus,
donc
ouais.
on espère arriver à 30 millions de signatures dématérialisées. Donc là, ça fera déjà un beau volume, effectivement.
Oui, c'est vrai que ce sera beau. Alors justement, on parlait de vos études tout à l'heure. Vous, donc, vous étiez encore étudiant quand EduSign a été créé. Est-ce que c'était vraiment le but ultime de devenir entrepreneur, ou est-ce que ça s'est fait naturellement, du coup ça s'est présenté à vous et c'est apparu comme une évidence?
Alors mon associé et moi, Dylan, avions déjà des sociétés avant. Moi personnellement, j'avais déjà vendu des cours en ligne, fait du e-commerce, donc je pense qu'entreprendre était le but, effectivement. Par contre, est-ce qu'on aurait pensé que EduSign deviendrait ce que la société est aujourd'hui? Je ne pense pas. À la base, on voulait juste résoudre un vrai problème qu'on avait pour nous, dans
comme
notre
quoi.
École, comme quoi. Et donc finalement, on s'est juste rendu compte que le problème était plus large, mais je pense que c'est le cas en fait de beaucoup de projets. C'est au début, on pense à un problème qui est le nôtre, puis on essaie de trouver une solution qui répond. Non pas juste à notre problème, mais au problème un peu plus large.
Je connais une autre boîte comme ça, Meta, enfin Facebook à l'époque, c'était aussi un problème dans une école. Enfin voilà. Oui, en tout cas, ça a marché. Et les autres sociétés, alors vous les avez revendues? Comment ça s'est passé?
Alors, les autres sociétés, l'activité s'efface petit à petit. J'ai encore un tout petit peu d'activité qui se fait à côté automatiquement. Mais
oui, parce que vous parliez de la gestion du temps tout à l'heure. J'imagine que c'est très chronophage d'avoir une start-up telle que EduSign. Du coup, forcément, ça laisse moins de temps pour le reste.
Ah, c'est effectivement, j'allais dire tout notre temps, mais c'est jamais vrai. Mais c'est une très, très grande partie du temps. Et forcément, ça demande un investissement considérable. En général, en étant fondateur d'une startup, et je pense que quand on regarde les autres fondateurs, ceux qui en tout cas avancent passent beaucoup de temps sur leur produit, mais c'est aussi parce qu'on le veut.
Bien sûr.
Forcément, on est en train de construire quelque chose. On pourrait choisir d'aller plus lentement et puis de passer nos après-midi à aller faire du sport plutôt qu'à travailler, mais finalement, on est content de le faire parce qu'on produit quelque chose de bien.
C'est du 7 sur 7 ?
C'est. Moi, j'essaie de faire du 6 sur 7.
De couper alors, pour se ressourcer.
Ou en tout cas, de faire un petit peu moins le week-end quand même. Il y a un moment, il est bien de se reposer. Et il faut de toute façon pour avoir des idées un peu plus claires.
Ouais. Comment vous voyez votre avenir au sein de EduSign et puis l'avenir d'EduSign? Comment vous imaginez la chose?
Alors, l'objectif d'EduSign, c'est de passer d'un logiciel qui permet de gagner du temps sur la gestion de l'assiduité, sur les feuilles de présence, à un logiciel qui permet de centraliser et d'automatiser tous les processus administratifs qui prennent du temps et qui sont des tâches à faible valeur ajoutée. Donc ça veut dire signer les documents, mais aussi les envoyer au bon moment automatiquement, les questionnaires pareil, et donner toutes les données importantes aux apprenants, aux formateurs, aux administrateurs, et petit à petit, on développe la solution pour aller là-dessus.
D'accord, donc c'est vraiment ça, ce serait plutôt à moyen terme au final.
On est activement en train de développer des solutions. Aujourd'hui, on a déjà, par exemple, les questionnaires et la signature de documents qui n'existaient pas au tout début. Mm-hmm. Et maintenant, on va ajouter des automatisations et des systèmes qui vont passer, qui vont être plus proactifs et donc qui vont aider les établissements du supérieur, par exemple, à réduire l'absentéisme, là où aujourd'hui, on est juste, entre guillemets, juste en train de faire une feuille de présence et d'assurer le financement de la formation, ce qui est un problème un petit peu différent. Donc on essaie de s'élargir et de proposer des solutions un peu plus poussées.
En début d'année 2022, vous aviez dit que vous aviez environ 500 000 utilisateurs. Aujourd'hui, nous sommes en mai. Quel est le nombre des utilisateurs ?
Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête en mai, mais je sais qu'on a dépassé les 600 000 en mars. Donc aujourd'hui, on doit être aux alentours de 700 000 utilisateurs en réalité.
D'accord. Du coup, vous visez, j'imagine, le million bien avant la fin de l'année.
Effectivement, nous, on ne va pas tellement compter en nombre d'utilisateurs. On va plutôt regarder le nombre de signatures, parce qu'en fait, un utilisateur, en réalité, c'est un joli chiffre. C'est agréable de le dire. Mmh. Mais on peut signer une fois, comme on peut signer 100 fois. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va plutôt regarder le nombre de signatures qui est un peu plus représentatif de l'impact qu'on va avoir, effectivement.
D'ici la fin de l'année, on croise les doigts. Quel conseil vous donneriez à des jeunes étudiants comme vous qui souhaitent se lancer, qui ont peut-être une idée pour résoudre un problème et qui hésitent à se lancer ?
Je pense que la raison de l'hésitation, c'est qu'on a toujours peur d'échouer. On a peur du jugement des autres, en tout cas la plupart du temps. Et donc, finalement, c'est se rappeler que lorsqu'on échoue, tout le monde s'en fout, et donc personne ne va regarder. On peut échouer 10 fois, il suffit de réussir une fois. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, c'est pas grave si on rate, et j'ai lancé plein d'idées qui n'ont pas marché, et on réussit rarement du premier coup. Et donc c'est, je pense, le conseil que je pourrais donner, ne pas hésiter à se lancer, c'est pas grave si on rate.
Vous vous motivez à trois avec Dylan et Grégoire. Est-ce qu'il y a des moments où l'un peut avoir des petits coups de mou et les autres sont là justement, bon, j'imagine plus maintenant, mais peut-être au début plus que maintenant.
Il y a forcément eu des coups de mou. Maintenant, nous, on a eu la chance ou malchance, je sais pas, mais d'avoir une croissance vraiment forte. Donc ouais. Quand on a besoin de répondre au téléphone et de parler aux clients, finalement, on pense un petit peu moins à nos problèmes.
C'est vrai.
Et on essaie juste de travailler. Donc finalement, il y a pas eu trop de coups de mou. Par contre, il y a une certaine fatigue à un moment qui s'est établie. Et donc, forcément, on a aussi eu le discours, parfois, pour les autres, de dire « N'hésite pas à prendre un petit peu de temps de repos. On sait que c'est dur, on est passé par là aussi. » Donc, on essaie de s'entraider là-dessus, oui.
D'accord. Et alors, vous êtes de Paris à la base ou
Moi, je ne suis pas de Paris. À la base, je suis de Grenoble. Je fais les études en partie à Lille et à Paris.
D'accord. Et Dylan et Grégoire
Dylan à Paris et Grégoire aussi à Paris, basiquement, oui.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Eliott Boucher, d'être venu sur le plateau d'Objectif Startup pour nous parler d'Edusagne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.